le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Imo et Radio Territoria.
Rebonjour les amis, voilà, nous sommes toujours à la seconde journée du Salon des maires d'Île-de-France où on se succède les politiques pour partager leurs projets. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau, elle était ancienne ministre du Logement, elle a un parcours politique impressionnant, députée, sénatrice, ministre du Logement, secrétaire d'État, redevenue députée, Valérie Létard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Mais c'est gentil, merci.
Je voulais absolument vous avoir, Valérie, parce que vous avez introduit une proposition de loi pour la mobilisation de l'habitat existant en réponse à la crise du logement. Alors, vous n'y allez pas par le dos de la cuillère. Hein. 32% d'offres locatives en moins depuis 2020. 2 760 000 demandes de HLM non satisfaites. 1 100 000 logements étiquetés F et G. 38,4 millions de logements existants à mobiliser. Vous prenez des chiffres massifs et vous y êtes allé véritablement de manière frontale pour dire qu'il faut agir sur l'existant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce projet de loi, vous y avez mis toute votre énergie et quelle est la raison pour laquelle finalement je me dis que vous avez une plus grande liberté en tant que député pour faire les choses et résoudre l'équation. J'ajoute là-dessus que l'ensemble des professionnels, c'est incroyable, l'unité complète à votre égard, sur votre propre projet de loi, on ne pouvait pas, rêver mieux en ce moment, surtout dans le contexte.
Eh bien, que dire après ces propos trop élogieux, mais en tout cas, merci beaucoup de me
laisser la réalité, hein, je veux dire, je ne rapporte que des faits. Hein.
J'essaye en tout cas de me faire l'écho des préoccupations que rencontraient nos concitoyens et tous ceux qui peuvent accompagner justement cette réponse urgente qu'il faut donner face à une crise du logement, une crise du logement locatif. Et comme vous l'avez rappelé, un sujet essentiel, c'est que 80% du logement existe déjà. C'est le logement déjà bâti, mais qui, pour une partie significative, est devenu passoire thermique. Les logements classés F ou G, aujourd'hui, les G déjà, sortent normalement, ne répondent plus à la réglementation qui permet de les louer. Donc, massivement, des logements sont en train de sortir du parc locatif privé ancien. Et donc, il faut être très vigilant, très attentif, et il y a urgence à maintenir le niveau de performance énergétique de ces logements, un, pour réduire les factures d'énergie, mais surtout pour ne pas réduire, avoir une attrition massive de l'offre de logements locatifs qu'on peut proposer à nos concitoyens dans ce parc privé. Il y a des bailleurs sociaux, il y a des logements sociaux, il faut les accompagner, il faut les développer, il faut les requalifier, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a ces 4,2 millions de logements qui sont aujourd'hui des passoires thermiques. Et dedans, c'est 1,3 qui sont des passoires thermiques, mais qui sont locatives. Donc, FG, eh oui, 1,3 million qui se font sortir du parc.
Déjà
locatif.
Que le marché s'est réduit quasiment de moitié en offre locative.
Donc,
au niveau
ça,
national, ça
si on ne fait rien, potentiellement, ça sort du marché locatif. C'est monstrueux. Alors, au moment où on n'en a pas assez. Comment on agit?
Nous posions la question, justement, pour faire une petite aparté. On vous a, d'ailleurs, quand vous étiez ministre, on vous a également posé la question. Il y avait un calendrier contraint, 28-2034, avec progressivement, sur les 7 lettres énergétiques, la sortie des 3 ou 4 dernières lettres. On peut comprendre, d'ailleurs, la raison pour laquelle on l'a fait. On a demandé, on vous a demandé, et les professionnels ont demandé, il faut sursoir à cela, il faut un moratoire, vous savez, il faut plus de temps, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le faire. Mm-hmm. Je précise, ce n'est pas une volonté de la profession, mais d'un plus de temps. Et là, c'est le cas, en fait. En réalité, on va attendre. On va permettre, grâce à votre projet,
en tout cas,
de réintroduire.
Vous
vous rendez compte, 700 000 passoires thermiques réintroduits sur le marché, c'est juste
colossal. En tout cas, c'est la trajectoire. Après, il faut créer les outils pour y arriver. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ça ne va pas tout résoudre.
Non, bien sûr.
Mais en tout cas, si on ne crée pas les solutions pour donner envie à tous ceux qui voudraient acheter des biens énergivore, faire des travaux pour les remettre dans le marché locatif.
Bien sûr.
Surtout quand en zone tendue, vous avez l'obligation d'encadrement des loyers. Comment votre logement, quand vous l'avez acheté, vous avez fait les travaux, il reste rentable? Comment vous impactez le coût des travaux dans un prix de location? Il faut des outils d'encouragement, d'incitation et d'amortissement qui permettront à celui qui veut pas investir dans les actions mais dans la pierre, de s'embarquer et d'accompagner la transformation et la rénovation énergétique du patrimoine. Il faut savoir que dans tous ces logements qui sont en train de sortir du marché, beaucoup appartiennent à des personnes qui sont âgées, voire très âgées, qui n'ont pas envie de s'embarquer dans des travaux.
Ou qui n'ont pas forcément les moyens.
Et qui n'ont pas les moyens, qui vont plutôt le mettre dans la vacance, qui vont qui vont le mettre en vente, mais encore faut-il trouver des acheteurs pour le mettre dans le locatif. Et donc, toute l'idée de cette proposition de loi dans son article premier, c'est quel outil on met en place pour que l'acquisition d'un bien énergivore, F, G ou même E ou D, puisse faire l'objet pour son achat, plus les travaux qui permettront d'atteindre la performance énergétique qui permet de le louer, eh bien, soit amorti, bénéficie d'un amortissement qui soit de 8000 euros par an à partir du moment où, quand vous avez un logement qui est F ou G,
ou G,
vous faites un saut de deux classes.
D'accord.
Et si vous achetez un logement...
Alors, un saut de deux classes, donc je suis G.
Donc, ça veut dire, si je suis G, je deviens E. Si je suis F, d'accord, je deviens D.
Donc, vous ne fixez pas une lettre minimum, mais un saut de classe.
Un saut de classe.
Et donc, mécaniquement, sur les 7, ouais, on améliore forcément...
Eh bien, ça veut dire qu'on se remet en situation d'être aux normes, de pouvoir louer, d'être dans la loi. Sinon, effectivement, c'est le logement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils sortent du marché. Ou, pire, vous avez aujourd'hui Allez, une utilisation, un détournement d'un bail qui s'appelle le bail code civil, le bail civil,
absolument,
qui ne sert pas à de la location nue et longue durée normalement, qui est utilisé par des propriétaires pour détourner effectivement les obligations liées à la loi et au rapport locatif. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ben, les gens n'arrivant plus à se mettre aux normes, en arrivent à emprunter des chemins qui sont à la limite de la légalité. On ne peut pas...
Oui, à la limite, oui, tout à fait. Vous avez bien... Alors justement, ces trois mesures phares, hein, le financement pour rendre le statut du bailleur...
Le bailleur privé, donc c'est deux sauts de classe quand on
absolument
est
étranger,
et c'est un... quand on est eux ou plus.
Alors, quand je prends les chiffres que vous annoncez, fiscalement, c'est du bon donnant-donnant.
C'est ça.
Bon donnant-donnant. Parce que vous demandez quand même, voilà, vous avez un amortissement qui est significatif, c'est presque le Pinel dans l'ancien, dans le neuf qui est dans l'ancien. Ouais. Donc, une belle incitation pour les professionnels et donc pour les clients, bien évidemment. La question, c'est justement... vous leur demandez en échange de plafonner, si on remet le bien sur le marché locatif, on est sur une règle de plafonnement des loyers.
Alors, le plafonnement des loyers, c'est quoi? C'est juste que, en fait...
Comme le Pinel.
C'est du LLI au trait social. Plus vous allez vers le trait social, plus vous avez une bonification, un suramortissement. Vous êtes encouragé à aller vers le social ou le trait social. Mais vous êtes plafonné, encore une fois, à partir du moment où vous êtes embarqué.
Et on est à combien sur le plafond, là, justement, en moyenne?
Là, on va le découvrir, puisqu'on va lancer la mesure.
Bien sûr.
Mais en tout cas, le plafond, c'est 8 000 euros par an, ce qui est déjà un plafond.
Mais on sera toujours, finalement, sur les prix de loyer pratiqués, à un prix plus bas que le marché locatif privé classique.
Oui.
Parce que l'idée, c'est d'inciter et de rendre les Français que dans leur taux d'effort ne puissent...
C'est deux choses. Que les propriétaires, à un moment donné, les gens qui ont envie d'investir dans la pierre, ils trouvent un peu de rentabilité.
Il faut qu'ils aient de
la
rentabilité. Sinon,
ils
ne le feront pas.
Ira.
Mais non.
Et sinon, ce sera... Et qui va le faire?
Mais bien sûr.
Donc, on voit bien que là, il y a urgence à agir. En contrepartie, vous savez bien qu'aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat pour nos concitoyens, elle est plus que centrale. Aujourd'hui, on voit bien que les gens... ça atteint presque 40% pour certaines catégories sociales. Le montant du loyer plus les charges, le coût du logement plus les charges, devient insupportable, avec des contraintes de plus en plus fortes. Et donc, on le voit bien, plus la tension sur le marché du logement est forte, plus cette réalité est là. Donc, il faut prendre en compte aussi la nécessité de ne pas non plus laisser flamber les prix et les loyers trop, pour pouvoir garder les gens à un niveau, effectivement, de pouvoir d'achat et une part du coût du logement dans le pouvoir d'achat des ménages qui soit raisonnable. Mais ça ne peut pas être sur le dos des propriétaires. Sinon, ils ne seront plus là.
Alors,
un équilibre entre les deux. La contrepartie, donc du LLI au trait social, un peu comme le Pinel, effectivement. Et la seule obligation aussi, c'est de maintenir ce produit en location 9 ans.
9 ans. Mais
minimum.
C'est du Pinel adapté à une réalité.
Voilà.
Non, mais c'est intéressant parce que sur le ventre...
Avec une vraie volonté d'aller sur
dispositions
qui encouragent la remise sur le marché des passoires thermiques. Si on ne fait pas ça, avec le DPE...
Valérie Létard, on a questionné, on a fait un sondage, puisque lorsque vous avez présenté ce projet de loi, vous le savez, on s'en est tout de suite emparé. Effectivement, vous vous adressez à l'essentiel du marché de l'investissement. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que des grosses sociétés qui investissent. Il y a plein de petits propriétaires qui ont besoin de défiscaliser un minimum, et c'est pas mal. Deuxième point phare.
70% des propriétaires bailleurs sont des petits propriétaires monopropriétaires.
1,1 de taux de détention. Vous avez raison de le rappeler. Et grâce à eux, ils servent aussi d'amortisseur social, parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, bien évidemment. Deuxième pas, faciliter les groupements d'artisans pour réduire les coûts.
Eh oui. Alors là, c'est un sujet sur lequel les artisans sont mobilisés depuis très longtemps. Vous savez, chez les artisans, enfin, vous avez deux catégories d'entreprises. Beaucoup de petits artisans, en fait, ont un seul corps d'État.
Oui.
Dans leur métier.
Bon, plomberie, électricité.
Ils sont plombiers, ils sont maçons, ils sont couvreurs. Or, aujourd'hui, vous l'avez vu, dans le cadre de la rénovation, c'est pour ça que je l'ai mis dans la mobilisation de l'habitat existant, je m'attaque à l'habitat existant, aux travaux, mais aussi à comment améliorer les copropriétés. Ce volet des artisans, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, vous regardez MaPrimeRénov'. Avant, dans MaPrimeRénov', vous aviez des monogestes et de la rénovation globale. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus que... pour améliorer plus fortement la performance, réno d'ampleur, ça veut dire plusieurs corps
d'accord.
d'État.
Donc on ne prend pas en charge le monogeste.
Les petits artisans, à part pour les pompes à chaleur qui sont maintenues, mais sinon pour le reste, les artisans sont tenus de se regrouper s'ils veulent pouvoir accéder au marché de la rénovation. Comment vous faites ? Il faut faire des groupements d'entreprises. Avant, vous aviez la possibilité des monogestes, aujourd'hui non. Simplement, quand vous faites un groupement d'entreprises, aux artisans, on demande tout simplement d'assurer une solidarité financière entre eux. C'est-à-dire que chacun doit prendre, en plus de son assurance dommage-ouvrage actuelle, une surprime d'assurance pour couvrir et être caution solidaire de celui qui potentiellement pourrait être défaillant.
Bien sûr, oui.
Et pas plus défaillant qu'une entreprise, par exemple, de 20 salariés qui est tout corps d'État et qui peut avoir le même risque de défaillance.
Et ça peut fonctionner.
Et le problème, c'est que cette solidarité financière, les artisans n'en veulent pas parce qu'ils disent que c'est vraiment, quand vous n'avez plus que des rénos globales, un vrai impact et une vraie difficulté supplémentaire pour eux. D'autant qu'ils cotisent déjà une assurance et que c'était une complexité supplémentaire qui leur était demandée. Depuis très longtemps, cette disposition au Sénat avait été adoptée. À l'Assemblée, c'est quelque chose qui n'avait pas franchi le cap du débat parlementaire. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il faut que ça fasse la navette. Ce que je peux vous dire, c'est que les artisans attendent.
Vous avez le soutien des organisations, CAPEB, bien sûr, qui voient ça très bien évidemment. Troisième volet, débloquer le financement bancaire des rénovations en copropriété. Alors là, vous attaquez à un chantier majeur, puisque les banques, elles sont plus que frileuses à y aller. Ça fait des années que des parlementaires également, aussi vos consoeurs, vos confrères, vos collègues, ils sont allés et ils se sont heurtés à une espèce de, je ne vais pas dire de lobby, mais de non-dit des banques, avec quelque chose d'assez mou. Même le rapport qu'avait présenté Yannick Borne, président de Procivis, d'ailleurs, je crois que c'est vous qui l'avez chargé de ce rapport.
J'avais missionné.
Sur la banque de la rénovation, auquel il croit forcément, on a presque l'impression d'ailleurs que cette fameuse banque de la rénovation ne verra jamais le jour. Bon.
Je lui souhaite de voir le jour. Parce que ça
rien n'a été fait de plus. Et quand j'interroge Yannick Borne qui me dit. Je lui dis, mais Yannick, est-ce que vous avez eu d'autres banques qui vous suivent dans le collectif ? À part une ou deux banques mutualistes, il n'y a pas grand monde au portillon, quoi.
C'est vrai que ça ne se bouscule pas. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai essayé de faire ? Dans la droite ligne de ce qu'a fait Yannick Borne, d'ailleurs, avec deux de nos collègues sénatrices.
Absolument.
Absolument.
D'ailleurs, vous avez reçu Guillaume Machère, le délégué général de Procivis, et Yannick Borne, il n'y a pas si longtemps.
Justement, pour les auditionner avant le débat sur la proposition de loi. Qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, j'ai repris tout simplement le travail qui a été mené par Procivis, la Fédération bancaire française et les deux sénatrices Amel Gacquer et Marie-Anne Margaté qui s'étaient penchées sur le sujet de la Banque de la Réno, mais aussi ce sujet-là. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est le premier obstacle, en tout cas celui qu'on peut lever immédiatement, c'est une disposition législative qui a été écrite avec la Fédération bancaire, Procivis et les parlementaires, qui vise à élargir le champ des garanties pour pouvoir accompagner des prêts collectifs à vocation simplifiée. Qu'est-ce que c'est ces prêts collectifs ? C'est des prêts qui vont pouvoir accompagner de façon beaucoup plus rapide et avec des garanties qu'il faut absolument élargir. Sinon, les banques n'y vont pas, les prêteurs n'y vont pas.
Mais ils iront ?
En tout cas,
objectivement.
Ils ont toujours mis ça comme étant un des obstacles principaux. Et donc, là, on débloque à partir du moment...
Si on débloque ça...
En tout cas, c'est ce que les banques nous ont dit.
D'accord.
En tout cas, c'est un levier significatif sur lequel, aujourd'hui, les banques considèrent qu'ils n'ont pas un champ de garantie suffisant pour pouvoir donner le go
bien
à
sûr.
7 milliards par an de d'investissement pour la rénovation des copropriétés. Le besoin pour se mettre aux normes dans les copros de France, c'est 7 milliards par an.
C'est énorme.
Si les prêteurs n'y vont pas, comment on y arrive ?
C'est juste pas possible.
Et donc, il faut absolument déverrouiller.
Donc, si ça devait fonctionner avec ce projet de loi,
j'en suis convaincu, un premier
Ça veut dire
point,
que cette banque pourrait voir le jour
point.
À travers, justement, cette dimension. Si ça, c'est adopté, ça pourrait servir d'acte de naissance potentielle
en tout cas,
à ce guichet unique de la banque de la Réno.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les banques n'auront plus cette excuse du champ de garantie trop restreint pour plus y aller. Et
non, mais
on sera bien évidemment attentif à ce que ce soit le cas.
Dernière question, Valérie Létard, le calendrier, on est très très en attente. Hmm. On en est où aujourd'hui? Quand est-ce que cette loi sera promulguée?
Alors, sur le calendrier DPE, ah non, ce calendrier de la PPL,
alors
adopté à l'Assemblée. Et ce qu'il faut, c'est que maintenant, à la rentrée, puisque vous avez bien compris qu'il y a 15 jours de session ordinaire, on ne peut pas déposer une proposition de loi en session extraordinaire.
D'accord.
Trop tard, là, cet été. Par contre, à l'automne, il faut que les groupes parlementaires du Sénat s'en saisissent. J'ai pris la tâche de mes anciens collègues sénateurs pour m'assurer que sur un sujet qu'ils partagent sur bon nombre de points, parce que je pense qu'ils sont tout aussi convaincus, si pas plus que moi, de la nécessité d'agir très vite sur ce sujet essentiel du bâti ancien qui est en train de partir en vacances et qui va échapper aux besoins cruciaux qu'on a en ce moment de répondre à nos concitoyens. Si on a des centaines de milliers de logements qui sortent du parc locatif, comment on y arrive?
Et donc,
à la rentrée j'espère qu'après les élections sénatoriales, donc octobre, il y aura des niches parlementaires. Dans ces niches, je vais faire mon possible pour qu'on puisse trouver les voies et moyens de faire en sorte que le Sénat puisse donner écho positif à cette proposition de loi.
Et donc,
c'est mon souhait le plus grand et je pense que dans l'intérêt général...
Adoption.
Je l'espère.
Programmation, promulgation.
Ben, je l'espère.
Décret d'application, on peut espérer janvier 2027.
Eh ben, écoutez, je croise les doigts. Il y a un projet de loi qui est en gestation actuellement. Je lui souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite. Mais cette proposition de loi, elle a le mérite d'exister, s'atteler à trois sujets urgemment à mettre en œuvre. Allons-y, très vite. Là. Le Sénat est pragmatique. On a été pragmatique à l'Assemblée. Accélérons la manœuvre et faisons en sorte de trouver des solutions concrètes au secteur et à nos concitoyens.
Tous ensemble pour la loi Létard, justement. Voilà. En tout cas, une chose... Et pourquoi pas, après tout, vous avez beaucoup œuvré. Bien sûr, au ministère, vous n'êtes plus au ministère du Logement. Vous êtes très regretté par les professionnels. Mais on a l'impression que vous ne ménagez absolument pas vos efforts. En tout cas, je salue avec beaucoup de plaisir votre énergie et avec beaucoup de reconnaissance de l'ensemble de l'écosystème. Valérie Létard, c'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau, député de la 21e circonscription du Nord. Merci pour tout ce que vous faites au nom de la profession, bien évidemment, et toujours dans le sens, finalement, d'une certaine forme de citoyenneté, parce que tout le monde a un droit inaliénable à un toit et à un toit décent. C'est votre œuvre et c'est aussi ce que vous faites pour les plus démunis, parce que, bien évidemment, il y a aussi des personnes qui vivent malheureusement en dessous des radars sociaux qu'on a du mal parfois à identifier, et c'est assez désespérant, surtout, si je ne peux pas ne pas évoquer ce sujet, à l'aube d'une élection majeure pour notre pays et qui va orienter notre République sur un chemin dont on va espérer qu'il ne nous enferme pas entre deux radicalités. Mmh. C'est ça qu'on va dire.
C'est un devoir collectif. En tout cas, bien il sûr. Faut qu'on soit au rendez-vous sur ce sujet qui est majeur pour notre pays.
Voilà.
Merci
à vous. Que des bonnes choses pour vous, Valérie Létard. On est ici, bien sûr, au Salon des maires d'Île-de-France. On va enchaîner avec l'enregistrement de notre ami Laurent Permas avec son émission La vie devant nous tous les dimanches à midi sur Sud Radio, bien sûr. On se retrouve tout à l'heure pour la fin de notre journée.
Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Immo et Radio Territoria.